Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi également, Marianne Paquette qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers la dernière de la semaine de C'est bon pour la santé sur Canal M. Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, a proposé cet automne deux projets de loi qui impliquent des changements, de grands, grands, grands changements au sein de notre système de santé. D'abord, le projet de loi 10, dont l'adoption se fait aujourd'hui là, et qui devrait être en vigueur dès le 1er avril, en tout cas, c'est ce qu'on prévoit, et qui a pour but, entre autres, de réduire la taille du réseau de la santé, et également le projet de loi 20, qui vise à assurer l'accès aux soins en forçant les médecins à suivre plus de patients, entre autres. Pourquoi les citoyens devraient s'intéresser au projet de loi 20? C'est le titre d'un article signé par Élise Desauniers dans le Huffington Post. Et elle sera là, Élise, en deuxième partie d'émission pour nous en parler parce que je me disais, pour s'y intéresser, il faut d'abord comprendre. Et ben elle sera là pour nous dépatouiller là, dans toutes ces informations-là. Mais d'abord, Audrey Acoun, qui, elle, est thérapeute cognitivo-comportementaliste, et Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Elles sont toutes les deux thérapeutes familiales et auteures d'un bouquin qui s'appelle « Dire enfin stop à la pression », un livre lucide, très, très concret, parce qu'il propose 5 étapes pour vous libérer, pour vous aider à vous libérer de la pression, mais également très, très rigolo. Je vous les présente à l'instant. Bonjour Isabelle.
Bonjour Marianne.
Bonjour Audrey.
Bonjour Marianne.
J'ai envie de commencer par la lecture d'un petit extrait de votre livre qui, je trouve, met bien la table parce qu'il exprime à qui, je pense, vous aviez envie de vous adresser et un petit peu le contenu que vous aviez envie de véhiculer. Pour moi, ça m'a fait rigoler. C'est là que j'ai saisi, je pense, le message. Ça va comme suit. Qui n'a jamais caché dans les placards, à moins de 5 minutes de l'arrivée des beaux-parents, toutes les affaires qui traînaient pour faire croire, sourire aux lèvres et à peine essouffler, que l'organisation, c'est mon rayon. Un mari, 3 gamins, un boulot, un planning multi-entrée, un peu de sport, une séance d'épilation régulièrement. C'est cool, j'assure. Non, je craque, en fait. La pression, est-ce que ça vient justement de ce qu'on veut cacher et de ce qu'on veut taire?
Oui, on pourrait le résumer comme ça. La pression, c'est vraiment ce fardeau qu'on se met sur les épaules de vouloir contenter tout le monde et de vouloir ressembler à ce qu'on croit qu'on attend de nous, de vouloir être parfait, réussir, alors qu'on ne l'est pas, qu'on est juste des êtres humains. Et donc, on se fatigue, on fait beaucoup d'efforts pour parfois être souvent quelqu'un d'autre qu'on est nous-mêmes, finalement, avec nos défauts, nos imperfections, tels qu'on est nous. Mmh. Et on se met beaucoup de pression à vouloir être trop, trop parfait.
Est-ce qu'on peut apparenter la pression, pour que les gens qui nous écoutent à la maison comprennent vraiment de quoi on parle, au stress? Est-ce que c'est semblable?
Alors, en fait, quand on dit « je suis stressée », la pression, elle vient de partout. Elle vient de l'extérieur, elle vient du travail, elle vient de la famille, vous l'avez lu, là. C'est la pression aussi qu'on se met nous-mêmes. La pression, c'est ce que vient de dire Audrey, c'est l'envie d'être parfait, de vouloir coller à un modèle. Le stress, c'est le syndrome d'adaptation à ça. Donc, c'est ce qu'on va ressentir qui va être une des premières étapes de ce qu'on peut ressentir quand on dit « je suis stressée ». Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Vraiment, la pression, c'est ce qui vient de l'extérieur ou ce que je me mets moi-même ou ce que je mets aux autres, d'une envie que tout soit comme je le souhaite ou comme les autres souhaitent que je sois.
Mm-hmm. Donc, si ça vient de nous, on est nos pires ennemis, à quelque part.
Oui, en tout cas, on n'est pas souvent toujours nos amis. C'est ouais. Plutôt dans ce sens-là, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on ne se fait pas du bien et qu'on est capable d'accepter des choses qui sont inacceptables, de ne pas prendre soin de soi pour pas passer pour l'égoïste de service. Si je laisse mes enfants, mon conjoint pendant 2 heures pour aller faire un massage alors qu'il y a peut-être les courses à faire, mais on va pas s'autoriser ça pour pas passer pour l'égoïste de service qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui. Et on va toujours être dans le devoir faire, et parce que ça vient de notre éducation. Si on a tous eu un petit peu cette éducation là quand même, de le devoir avant le plaisir, ça se fait, la morale, ça se fait pas et tout ça. Et finalement, quand on devient adulte, bah on reproduit un peu ces schémas là c'est normal de les reproduire. Après, c'est bien de prendre conscience que ça n'est pas forcément bon pour nous et de s'en libérer.
Mais et de là, c'est très très intéressant, parce que on a l'impression qu'on rend service aux autres, qu'on en fait beaucoup et que c'est bien, mais à un moment donné, ça a des conséquences, cette pression-là.
Oui, parce que c'est beaucoup trop. Ce qu'on dit souvent, c'est que en fait, on traite beaucoup mieux les autres qu'on ne se traite soi-même. Donc, on n'apprend pas, tout petit, à prendre soin de soi, comme Audrey vient de le dire. Et donc, on en fait trop. Au nom de quoi ? Finalement, au nom d'être accepté, de se dire j'ai absolument besoin qu'on m'aime. Si je refuse de prendre le dossier que le collègue vient de me donner, je vais passer pour celle qui n'a pas du tout l'esprit d'équipe. Donc je vais dire oui, alors que mon envie, ça serait de dire non parce que je sais que j'ai déjà trop de travail. Mm-hmm. Ou bien je vais accepter que la copine me laisse ses enfants en garde alors que j'en ai déjà 3 à la maison et que je suis épuisée. Mais pour être vraiment sympathique, je vais dire oui là où je devrais lui dire je l'aurais fait avec plaisir, mais vraiment, je ne peux pas aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Mmh. Et on ne le fait pas pour soi, alors qu'on l'accepte, on prendrait soin des autres beaucoup mieux que de soi-même.
Ce que vous dites, Isabelle, ça me fait penser à ce passage où vous racontez ce qui engendre la pression, dont, et ça j'étais très étonnée, et pourtant ça fait plein de sens, le jugement. Le jugement qu'on peut avoir envers les autres, envers soi. Il y a cet exemple, on entre dans le bureau d'un ou d'une collègue, elle joue, je ne sais trop, à un jeu sur le web, on se dit « Ah, mais elle est un peu paresseuse, elle travaille pas », mais au fond, on la juge en faisant ça, peut-être qu'elle est juste fatiguée, elle a besoin d'une petite pause.
Oui, elle vient peut-être de travailler pendant 2 heures sans s'arrêter et elle a besoin de sa pause où elle joue sur le web, effectivement. Mais on va être là à se comparer et se dire, mais si je juge les autres, alors certainement ils vont me juger aussi et je préfère qu'ils me jugent de manière très positive. Donc, je vais essayer de paraître la plus excellente possible et la meilleure employée même.
Et tout ça, ça a des conséquences sur notre santé?
Oui. Oui, ça a des conséquences. Ça va de des rhumes à répétition chroniques, aux douleurs de dos, mais ça peut aller bien plus loin puisque ça va jusqu'aux troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles sexuels, jusqu'à la dépression, ce qu'on appelle le burn-out aussi, et parfois même jusqu'au suicide puisque quand trop c'est trop, parfois la seule échappatoire pour certaines personnes, c'est de se dire je veux plus me réveiller demain parce que c'est trop lourd à porter, tout est trop lourd à porter, le fardeau est trop lourd. Alors bien évidemment, ce sont des cas extrêmes. Heureusement, il y en a pas autant que ça, mais tous les maux qui viennent avant, les troubles du sommeil, on voit beaucoup de gens qui dorment de plus en plus mal. On dit le mal de dos, c'est le mal du siècle. Il y a plein de symptômes comme ça auxquels on ne prête pas attention. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas. Souvent, on arrive au burn-out ou à la pression et on se dit, à la dépression, et on se dit, ça m'est tombé dessus, je ne m'en suis pas aperçue.
Quand il y avait plein de signaux.
Alors qu'il y avait plein de signaux déjà, mais on n'a pas été éduqué, comme le disait Isabelle tout à l'heure, on n'a pas été éduqué à écouter son corps, à prendre soin de soi. Et si j'ai mal au dos, c'est peut-être, on va se dire, oui, non, mais c'est parce que j'ai porté des choses trop lourdes. Quand je suis malade plusieurs fois de suite, on se dit, oh, c'est pas de chance, il y a plein de virus en ce moment. Non, sauf que c'est peut-être parce que je suis déjà épuisée et que mon organisme n'arrive pas à bien se défendre. Le système immunitaire est en berne et il n'arrive plus à se défendre parce que je suis épuisée, parce que j'ai trop de pression et que j'en fais trop.
Mm-hmm. Est-ce que la pression peut être positive? Je pense par exemple à se dire je veux vraiment performer au travail, je veux être la meilleure et justement ça donne de bons résultats, justement on performe et puis le patron est content, les collègues également. Est-ce que ça peut avoir un bon côté?
Alors on parle de pression positive effectivement, nous on l'a vécu, on le dit souvent, on a créé une société qui s'appelle la Fabrique à Bonheur et avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, on a vraiment jusque tard le soir, on répondait aux mails, on mettait tout en œuvre et c'était très 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 jubilatoire, vraiment avec une énergie, une excitation géniale. Quoi qu'il en soit, la pression, au bout du compte, ça a le même résultat, qu'elle soit positive ou négative. On est épuisé, ouais. On a du mal à dormir, on a mal au dos et à un moment, on n'en peut plus. Donc, on peut voir que c'est positif et se dire, je vais mettre cette pression-là. Le résultat sera le même. À un moment, il faut quand même prendre soin de soi. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Donc, nous, on a levé le pied un petit peu.
Oui, Audrey. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant de faire la distinction entre la pression et le stress. Avoir du stress positif, c'est moteur et c'est ça qui va nous pousser à faire des choses, à entreprendre. Il va y avoir cette excitation, mais on dit que c'est du stress positif parce que là, on s'adapte bien à ce qui nous est demandé de faire ou à ce qu'on s'impose. Quand on bascule dans la pression, c'est qu'on n'arrive plus. C'est que la pression, ok, pendant un moment, c'est du stress positif et c'est jubilatoire, comme le disait Isabelle. Mais l'accumulation d'aller au-delà de ses limites physiques et cognitives et psychologiques fait qu'au bout d'un moment, on est épuisé comme tout le monde.
Ouais. Là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent à la maison et qui se disent « c'est bien beau tout ça, mais en 2015, dans notre société où tout va très, très vite, où les exigences sont de plus en plus grandes, on fait comment? » La bonne nouvelle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, votre livre est plutôt concret et vous proposez 5 étapes pour se libérer de la pression. Bon, la première, par exemple, s'affirmer sans devenir un tyran.
Oui, s'affirmer sans devenir un tyran, on a remarqué que souvent nos patients, on leur dit, mais dites que ça suffit, que mettez des limites. Ah oui, mais je ne peux pas, je vais passer pour qui, etc. Et puis finalement, ils ne disent rien. Et il y a un moment, ils arrivent et ils nous racontent, ah ben ça y est là, j'ai pété une coche, voilà. Et c'est parti trop loin, ils ont fait des dégâts, c'est un vrai tsunami. Et on leur dit toujours, on peut s'affirmer beaucoup plus tranquillement. On peut poser la limite et dire, voilà ce qui est bon pour moi, voilà où ça s'arrête, voilà ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas. Plus tranquillement, sans avoir tout d'un coup à partir dans des tours et puis du coup...
Et là, j'ai l'impression que vous réprimez un fou rire. On vient de parler de pétage de coche. Parce que dans votre livre, vous partez de vrais témoignages de vos patients, ouais, et de votre vie également.
Oui, alors tous
qu'on
les...
On a essayé de déguiser. Hein.
Oui, tous les témoignages sont vrais et les solutions qu'on propose, qui ne sont pas des solutions miracles, mais ce qu'on a proposé en tout cas à nos patients... On l'a écrit dans ce livre-là et ça a marché pour eux. Et on s'est dit, si ça marche pour un certain nombre de gens qu'on accompagne, ça devrait marcher un petit peu pour tout le monde. Et on a déguisé aussi, donc on a changé tous les prénoms, bien évidemment, mais on a aussi déguisé, c'est nos propres expériences, puisqu'on a un burn-out chacune à notre, à notre compteur quand même. Dans une autre vie où on était dans une vie où on était sous pression permanente avec ce besoin de réussite, ce besoin d'être la mère parfaite, de gérer deux jobs, les maris, les enfants, toutes ces choses-là, de rendre service, d'être les gentilles copines de service. Et à un moment donné, on a vu nos limites. Et c'est ça qui nous a fait prendre conscience qu'on pouvait faire autrement. Et c'est long. Et ouais, on a voulu écrire ce livre-là justement pour aussi dire aux gens qu'on n'est pas obligé d'en arriver à des maladies extrêmes et à du burn-out et de la dépression pour changer, que c'est pas mal peut-être aussi de mettre en place de bonnes habitudes pour éviter d'en arriver là. Puisque tous les gens qu'on rencontre, en revanche, qui sont passés par le burn-out ou par des maladies très graves liées à trop de stress et trop de pression, ce qui est sûr, c'est qu'après, il dit « je ne referai plus jamais comme avant. Ouais. Il a fallu que j'ai un cancer, par exemple, pour comprendre que je pouvais faire du slow life aussi et que la Terre n'arrêtait pas de tourner, vraiment, que je pouvais profiter plus de ma famille, que même si je gagne un petit peu moins à la fin de l'année, je peux quand même très bien vivre ma vie aussi. Mais ce qui est dommage, c'est que parfois, il faut attendre une catastrophe pour prendre conscience de tout ça.
Et bien sûr, on ne le souhaite pas, ça.
Non.
Bon, alors continuons avec ces étapes-là, parce que c'est intéressant. Accepter d'être imparfait sans trop faire dur, quand même.
Oui, accepter d'être imparfait, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte avec nos patients que de plus en plus jeunes, la demande de perfection, de production efficace, zéro droit à l'erreur, etc., devenait de plus en plus important, et même avec des enfants très petits qui, en première année, devaient déjà savoir lire très très vite, etc. Et on s'est dit, mais c'est complètement dingue parce qu'on a un degré d'exigence du zéro faute pour tout qui devient envahissant. Et le risque, c'est quoi avec les patients qu'on voit en disant, par exemple, cet exemple dans le livre de cette femme qui veut absolument faire des dîners parfait pour recevoir ses amis et qui n'en profite absolument pas, le risque qu'elle leur propose de manger des spaghettis bolognaises qui lui prennent 10 minutes à préparer, ça serait quoi? Que ses amis ne l'aiment plus? S'ils ne l'aimaient plus, ça ne serait pas des vrais amis. Mm-hmm. Donc, accepter de baisser son exigence en termes de perfection, ça n'a pas de risque. Il n'y a pas mort d'homme. Mm-hmm. Alors, je ne baisse pas mon exigence quand je suis médecin, par exemple, mais dans la vie de tous les jours, la quête de la perfection, elle est vraiment très envahissante, très bloquante. Et nous, on dit toujours que dans le mot parfait, ce qu'on préfère vraiment, c'est la deuxième syllabe, c'est que ça soit fait en tout cas, parce qu'on pourra l'améliorer. Mais on peut rester comme ça bloqué à envisager que les choses soient parfaites et ne rien mettre en œuvre, alors que quand on essaye, qu'on s'ajuste et qu'on fait des erreurs, c'est pas très grave. Au moins, on a la satisfaction d'avoir réussi à faire quelque chose.
Oui, et cet exemple de la dame qui devait se réajuster à recevoir ses amis, je fais le lien avec penser et organiser son travail autrement. Bon, dans ce cas-là, c'est pas le travail, c'est recevoir ses amis. Mais si je ne me trompe pas, vous lui aviez proposé trois options. Il y avait les spaghettis, il y avait l'assiette de fromage.
Le plateau de fromage.
Le plateau de fromage. Et elle devait choisir. Donc ça, c'est bien aussi de dire, j'ai des options. Et puis après, j'y vais, je tente quelque chose. Si ça, ça ne fonctionne pas, j'essaierai autre chose. Et finalement, le résultat, c'est que ses copains lui disent, c'est chouette, on a bien mangé, mais en plus, tu étais avec nous.
C'est exactement ça, c'est de montrer à la personne quel bénéfice elle va tirer de baisser un peu son niveau d'exigence, mais de lui laisser plusieurs alternatives. Nous sommes toutes les deux, on est toutes les deux hypnothérapeutes, on est formées en hypnose, et en hypnose, il y a une technique qu'on propose qui est de demander à l'inconscient de trouver mille et une stratégies et d'en sélectionner 4, 5, 6 qui soient efficaces, réalisables et respectueuse. Il ne s'agit pas de choisir une nouvelle option qui ne serait pas respectueuse. Je ne vais pas arrêter de me manger les ongles, par exemple, si c'est pour me jeter sur la nourriture, ou je ne vais pas arrêter de fumer si c'est pour commencer à me ronger les ongles. Donc, on propose des alternatives avec un degré d'exigence un peu plus bas, pas trop dur non plus, sans faire dur complètement. Il ne s'agit pas de rester affalé dans le canapé toute la journée à rien faire, pas du tout, mais de baisser un peu le niveau d'exigence pour voir tous les bénéfices que je veux en tirer. Moins de fatigue, si on est au travail, plus d'efficacité, puisque un cerveau dont on prend soin, à qui on permet de faire des pauses, par exemple, va beaucoup mieux réfléchir. Donc, on va être plus productif et moins fatigué.
Oui. Le temps file, donc je dis aux auditeurs peut-être les deux autres étapes rapidement, être authentique et laisser son empreinte, fabriquer ses petits bonheurs. Et il y a une panoplie d'autres trucs également dans votre livre. J'ai dit enfin stop à la pression, c'est publié chez Édito. Et j'aimerais nous laisser sur une phrase de votre livre que j'ai beaucoup aimée et à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Le meilleur moyen d'apprendre à aimer, c'est de changer le M en D et de commencer par aider. C'est vraiment magnifique. Audrey Acoun, thérapeute cognitivo-comportementaliste, et Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Vous êtes thérapeute familiale, hypnothérapeute et fabricante de bonheur également. www.lafabriqueabonheur.com. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_M.
Bonjour Élise Desauniers.
Bonjour Marianne Paquette.
Vous êtes là, Élise, parce que il y a très, très longtemps que je voulais trouver quelqu'un pour nous parler de la loi 20, parce que, évidemment, cette loi aura énormément fait ce projet de loi-là, là, qui devrait être adopté dans les proches, débattu là, dans les prochaines semaines, aura énormément d'impact sur les Québécois, mais c'est pas facile nécessairement de bien s'y retrouver. Et vous avez signé un article dans le Huffington Post, pourquoi les citoyens devraient s'intéresser au projet de loi 20. Ce projet-là, d'abord sur papier, il semble, tout semble OK. Là. Ce qu'on propose, c'est favoriser l'accès aux services de médecins de famille et de médecine spécialisée pour tous les Québécois, pour les 8 millions de Québécois que nous sommes. Mais pour vrai, en réalité, c'est plus complexe que ça, Élise.
Oui, effectivement. On débat de ce projet-là depuis novembre et un peu comme toutes les réformes de santé qu'on a vu passer au Québec au cours des dernières années, moi, j'ai vu les articles passer dans les journaux, je voyais qu'il y avait de la controverse, mais je n'avais pas porté tellement d'attention. Je voyais là-dedans une autre réforme de la santé, puis en espérant que celle-ci allait fonctionner, parce qu'on ne peut pas être contre la vertu. Là, tout le monde veut un médecin de famille. J'ai partie des quelques privilégiés qui ont un excellent médecin de famille, et puis je souhaite évidemment la même chose à tout le monde. Mais dans le temps des fêtes, j'ai rencontré une médecin qui me racontait l'impact que ce projet de loi-là aurait sur sa pratique, et elle avait littéralement les larmes aux yeux. En me racontant ça, on est habitué à ce que les médecins soient des gens avec un certain détachement et tout ça. Et là, elle disait, mais je pourrais plus pratiquer la médecine que je pratique. Et c'est là que j'ai dit, oui, non, il faut que j'essaie de comprendre c'est quoi les enjeux derrière ça. On n'est pas dans une négociation salariale ou dans une autre réforme. On va chercher quelque chose de vraiment plus complexe que ça. Donc, ce que j'ai compris, donc j'ai décidé de faire de la recherche, des entrevues avec des médecins et tout ça. Donc, à la base, ce que le ministre de la Santé propose, c'est de couper de 30 % le salaire des médecins qui ne respectent pas des quotas de patients, les médecins qui ne travaillent pas suffisamment. Donc ça, on peut être entièrement d'accord avec l'idée. Mais, puis le docteur Barrette nous disait que presque 60 % des médecins de famille travaillaient moins de 175 jours par année. Fait qu'on fait, ben oui, 1 plus 1 égale 2. Si les médecins ne travaillent pas assez, c'est pas surprenant qu'on n'ait pas suffisamment de médecins de famille. Mais la réalité, en fait, elle est vraiment tout autre, là. Le Devoir a, par exemple, refait les calculs du docteur Barrette. Et là, si on tient compte du vrai travail qui est fait par les médecins, là, si on refait les calculs, si on prend en compte le temps qui est passé à l'hôpital, si on exclut les médecins qui travaillent à temps partiel, parce qu'il y a des médecins qui sont, par exemple, des jeunes parents ou des médecins qui se rapprochent de la retraite, on est plus près de 216, 220 jours de travail par année. Donc, vous et moi qui travaillons à temps plein, on se prend 4-5 semaines de vacances par année, on travaille à peu près ce nombre de jours-là. Donc, c'est pas vrai que les médecins ne travaillent pas assez.
Puis en même temps, quelque chose qui, à la lecture de votre article, Élise, m'a quand même ébranlée, c'est de voir le côté pervers de la réforme, c'est-à-dire que les médecins, s'ils veulent garder, conserver leur 100 % de salaire, devraient choisir des patients en bonne santé pour que ça puisse aller vite.
Oui, mais tout le problème est là. Par exemple, Olivia Nguyen, une des médecins que j'ai rencontrées, c'est une jeune médecin et c'est le médecin qu'on rêve tout d'avoir, là. Elle est passionnée par son travail. Et ce qu'elle fait, c'est de l'hospitalisation. Donc, elle travaille en hôpital pour les gens qui sont hospitalisés. On a tendance à penser que médecins de famille, c'est juste ceux qui font le cabinet, mais tous les médecins de famille travaillent aussi à l'hôpital. Ils sont obligés de travailler un certain nombre d'heures.
12 heures par semaine, oui.
Oui, voilà. Le docteur Nguyen, elle fait de l'hospitalisation et elle fait de la consultation en soins palliatifs, puis elle fait aussi de la consultation externe en soins palliatifs. Donc, ses semaines sont déjà bien remplies. Là, elle a seulement 150 ou 200 patients. Elle n'a pas le temps d'en prendre davantage parce que ses patients en soins palliatifs, c'est évidemment des gens dont les consultations prennent plus que 5 minutes. Là. Ces personnes-là sont en fin de vie, on veut diminuer leur souffrance, il faut prendre le temps de les écouter. On ne peut pas faire ça comme on traite des otites chez des enfants d'âge scolaire. Donc, elle, pour garder son salaire, elle devrait avoir 1000 patients. Et elle est incapable d'avoir 1000 patients. Il va falloir qu'elle mette de côté ses ses patients en soins palliatifs. Il y a un autre médecin qui donnait une entrevue récemment. Elle a 1300 patients qui sont inscrits. Donc là, elle, selon les quotas du docteur Barrette, elle serait parfaite. Le problème, c'est que parmi ses patients inscrits, elle fait des suivis de grossesse. Mmh. Et ça, bien évidemment, on a besoin de médecins pour faire des suivis de grossesse. Mais ces patients-là qui sont dans le suivi de grossesse, ils ne rentrent pas dans le quota des 1000 patients du Dr Barrette. Donc, son salaire serait, elle aussi, amputé.
Et encore là, ce qui ressort de votre article, puis à quelque part, vos propos en témoignent également, c'est que ça devient une médecine de volume, une médecine de masse, non pas tant en quantité, mais en productivité.
Ben oui, c'est ça. L'idée, ça va être de voir le plus de patients possible pour remplir le quota. Et si on veut voir beaucoup de patients, ben c'est pas les gens les plus vulnérables de la société qu'on va rencontrer. On va pas rencontrer des gens qui sont en fin de vie. On va pas rencontrer des gens qui souffrent de maladies mentales. On va pas rencontrer des gens lourdement handicapés qui prennent 10 minutes pour monter sur la table d'examen. On va rencontrer des gens en bonne santé pour remplir le quota. Et même ce que Jean-Pierre Ménard, qui est un avocat spécialisé, oui, en soins de santé, disait, lui, c'est peut-être même que les médecins, après 1000 patients, ils vont arrêter parce qu'ils vont faire leur quota et ça va avoir aussi l'effet pervers. Notre système de santé paye les médecins à l'acte, pas à l'heure. La formule de rémunération est assez complexe, mais en gros, on paye à l'acte. Ça risque même de nous coûter plus cher qu'en ce moment parce que les médecins vont voir beaucoup, 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 beaucoup de patients très, très, très rapidement. Et c'est pas ça qu'on veut comme citoyen. On veut des médecins de famille, oui, mais on veut des médecins de famille qui vont prendre le temps de nous écouter, de nous prendre en charge. Quand on a juste un besoin d'une petite consultation rapide, ben oui, ça prend 5 minutes, mais il y a des périodes de notre vie et ça va tous nous arriver à un moment donné ou à un autre où on a besoin de passer du temps avec notre médecin. Mm-hmm. Et peut-être que à ce moment-là, on ne sera plus des patients souhaitables mm-hmm. pour nos médecins.
Pourquoi les citoyens devraient s'intéresser au projet de loi 20? C'est le titre de votre article, Élise Desauniers, dans le Huffington Post. On mettra le lien sur notre site et ça soulève bien sûr plein de problèmes, accès aux soins de santé, à la justice également. En terminant très rapidement, Élise, est-ce que vous pensez que l'objectif sera atteint si la loi, le projet 20 est adopté, que tous les Québécois auront un médecin de famille?
Je ne suis pas une spécialiste du système de santé, mais tous les spécialistes sont d'accord pour dire que non, l'objectif de donner un médecin à chaque Québécois ne sera pas atteint. Et si chaque Québécois a un médecin, mais qui est prêt à le voir seulement 5 minutes par année, je pense qu'on sera passé à côté du but recherché.
Je laisse votre adresse, en fait, votre site web, edesauniers.com, pour en savoir davantage sur vous. Vous êtes également auteure, en plus d'être blogueuse sur ce journal. Merci beaucoup, Élise. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci, à bientôt.
Bye-bye. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro qui vous remercie pour cette belle semaine. Et puis, on sera là, nous, la semaine prochaine également. On est en rediffusion à 17h. Et puis, bon week-end. Portez-vous bien, amusez-vous, reposez-vous. Bye-bye.